civilisation. Kolkhoz et autres joyeusetés du genre deviennent la norme. En réalité, derrière le modèle fantasmé se cachent la misère et la faim. Le premier plan quinquennal est un échec. Les agriculteurs se rebiffent, ils sont châtiés, victimes d'une propagande bien huilée. Des grandes famines se déclenchent à nouveau. Elles sont sciemment planifiées par Staline lui-même dès 1930. En Ukraine, ils sont plus de 5 millions à mourir de faim. Holodomor, voilà le nom sinistre que porte ce moment. L'oppression du nouveau leader s'exprime aussi par la déportation via un réseau de camps de concentration terribles, les goulags, présents à foison dans les territoires les plus inhabités de l'URSS. Ils seront des millions à être déportés. On les appelle les ZEK. La police politique est à la solde de Staline. Des convois entiers d'innocents sont suspectés et condamnés sans aucune forme de justice. Ils sont la main-d'œuvre gratuite des projets grandiloquents du chef. Barrages, canaux, voies ferrées, métro. Au niveau artistique et culturel, la politique imposée conduit à des fins de carrière prématurées. Outre l'infamie vécue par Shostakovich, Mandelstam, l'un des plus grands poètes du siècle, meurt au goulag. Dans ce secteur comme ailleurs, ils sont très peu à résister. Staline fait peur. Les purges provoquent une véritable politique de la terreur. Persuadé d'être la cible de complots venant du peuple, Staline provoque la mort de 700 000 personnes sur la seule année 1937. Du délire. Boukharine, Kamenev et tous les autres héros de la révolution de 1917 sont massacrés. Les procès de Moscou entrent par la grande porte parmi les infamies de l'histoire. Le leader, lui, vit dans l'opulence et se plaît à voyager dans tout le pays sans contrainte. Ça ne va pas durer. En 1939, poussé par sa volonté de prendre possession des pays baltes et d'une bonne partie de la Pologne, Staline signe un pacte avec le diable, Hitler. La stupeur est totale. Les nazis, depuis leur arrivée au pouvoir, ne cessent de marteler que les communistes sont leur principal ennemi mortel. Bientôt, cette alliance contre nature va conduire Staline, comme le reste du monde, au cœur de la guerre. Depuis plusieurs jours, Dmitri Shostakovich vit dans la peur. Dénigré pendant plusieurs années par le régime, le compositeur a su retrouver les grâces de Staline avec l'écriture de sa 5e symphonie. Devenu professeur au conservatoire de Leningrad, le voilà confronté au spectre de la guerre, comme tous ses contemporains. Jour et nuit, les bombardiers allemands se déchaînent sur la ville de Lénine. Loin de se démonter, Shostakovich a demandé son incorporation dans un piquet d'incendie. La défense de la patrie, voilà tout ce qui compte face à l'ogre nazi. L'armée rouge semble incapable d'arrêter ce rouleau compresseur. Témoin de l'horreur, l'artiste s'est lancé dans un nouveau projet musical. Une 7e symphonie qui aura pour thème les assauts subis par sa ville. Au milieu de la cohue, des cris et des gravats, Shostakovich se raccroche à son amour pour la composition. Son pays bascule dans l'horreur. Staline semble totalement démobilisé, incapable d'agir face à l'avancée de son ancien allié qui vient de le trahir. Le musicien et sa famille seront extradés de Leningrad en octobre. Ils ne subiront pas l'un des sièges les plus meurtriers de l'histoire, qui fera des centaines de milliers de morts. Depuis Kouibitchev, Shostakovich va parachever sa 7e symphonie. Sa musique sera jouée dans une Leningrad agonisante. Staline se fait prendre de court lorsqu'à l'été 1941, son allié nazi se lance à l'assaut de l'URSS. Dès les premiers jours, l'opération Barbarossa permet à Hitler de faire des centaines de milliers de prisonniers. Ceux d'entre eux qui réchapperont de la terreur du Reich seront déportés par Staline, au motif de la trahison. Pour se sortir de l'ornière, le leader communiste mobilise tous les hommes de 16 à 50 ans. Bientôt, il est à la tête de près de 14 millions de soldats. C'est absolument considérable. Embrigadés, conditionnés par la propagande stalinienne, ces enrôlés mal commandés vont faire des miracles. La plupart des officiers compétents de l'armée soviétique ont été purgés en 1937 par le maître, Staline. A-t-il vraiment cru la parole d'Hitler en négociant le pacte germano-soviétique de 1939 qui lui promettait une partie de la Pologne et les Pays-Baltes? C'est difficile à dire. Alors que les nazis ont fait main basse sur une partie de l'Ukraine et qu'ils avancent vers Leningrad et Moscou, ils sont enfin arrêtés grâce à une résistance acharnée et sacrificielle des soldats russes. À Smolensk, les Allemands rencontrent leur première difficulté. Pourtant, le succès soviétique est en demi-teinte. Eux qui perdent en quelques semaines près de 5 millions d'hommes, tués, blessés, disparus, prisonniers. L'obstination de Staline coûte des vies précieuses. Certains haut gradés, comme Djoukov, peinent à faire entendre leur voix. En septembre, Kiev est prise, malgré les mises en garde de ce dernier. Le fils de Staline, Yakov, qu'il a eu avec sa première femme, est même fait prisonnier. En novembre, l'aviation allemande bombarde Moscou, capitale d'une URSS, en proie à de graves problèmes. Le 7 novembre 1941, pour la date anniversaire de la prise du pouvoir par les communistes, Staline organise le défilé d'usage, comme si de rien n'était. Deux événements vont lui permettre de reprendre pied. En premier lieu, les États-Unis rentrent en guerre contre le Japon et l'Allemagne. Deuxièmement, malgré 300 000 tués, blessés et disparus supplémentaires, Staline arrête les Allemands aux portes de Moscou. C'est une première grande victoire, mais Hitler est loin d'être rassasié. Au printemps 1942, l'avancée reprend et les nazis filent en direction des puits pétroliers du Caucase. Germe dans l'esprit du Führer l'idée de prendre Stalingrad, pour prendre Moscou à revers et humilier son ennemi. Stalingrad, la ville de Staline. Le symbole est trop beau pour être ignoré. Mais Hitler commet là une grossière erreur. En un rien de temps pourtant, la ville est réduite en cendres par les bombardements incessants. La 6e armée allemande de Paulus s'infiltre dans les faubourgs. Mais elle s'y enlise, au point de tout perdre. Djoukov, le chef d'état-major de l'URSS, mène la bataille d'une main de maître. Paulus est encerclé dans Stalingrad. En un mois, la situation devient catastrophique. Le 2 février 1943, Paulus signe sa reddition. Il laisse derrière lui 500 000 morts et plus de 100 000 prisonniers. Hitler, qu'il a nommé maréchal la veille pour le forcer à se suicider, veut absolument le récupérer en proposant un échange de prisonniers. Il offre à Staline son fils, qui refuse avec cette phrase célèbre: « On n'échange pas un maréchal contre un lieutenant ». Malgré la victoire, les Russes continuent de payer un tribut inhumain. Plus de 900 000 morts et près de 700 000 blessés. Staline est un boucher qui n'hésite jamais à sacrifier des vies humaines si cela peut lui servir. Le rouge s'impose sur l'échiquier de la diplomatie internationale. Plus encore, à Téhéran, durant l'hiver 1942, il dicte ses conditions aux alliés, notamment le débarquement à l'ouest pour soulager ses armées. Tous savent bien qu'il est devenu indispensable. Il faut dire que Staline dispose d'une arme nécessaire à la victoire, son vivier de soldats. D'ailleurs, et malgré le siège terrible de Leningrad par Hitler qui fait 2 millions de victimes en 900 jours, les Allemands ne tardent pas à être pris de court et à reculer. En 1944, le territoire de l'URSS est totalement libéré par les soldats russes. Suffisant ? Non, certainement pas. Staline avance et met un pied au cœur du Reich alors que les Alliés ont débarqué en Normandie. La Pologne est bientôt totalement occupée et l'armée rouge libère les plus importants camps de la mort. L'Ukraine est aussi récupérée par les hommes de Staline. Sa population, favorable aux Allemands après les atrocités qu'elle a vécues de la part des communistes, est profondément martyrisée. Celui qui dirige ces opérations s'appelle Nikita Khrouchtchev. Ce jeu de massacre ne s'achève qu'avec la terrible et sanglante bataille de Berlin. Le 30 avril 1945, Hitler se suicide. Le 8 mai, la fin de la guerre en Europe marque la grande victoire de Staline et des alliés. Staline, le petit géorgien aux bras atrophiés et à la boiterie marquée, est devenu l'un des nouveaux maîtres du monde. Il s'assoit sur une montagne de 9 millions de soldats morts et plus de 10 millions de blessés. Les pertes civiles atteignent pour la seule URSS la barre stratosphérique de 20 millions. Mais rien n'est trop lorsqu'il s'agit d'assouvir ses ambitions. Quant à Dmitri Chostakovitch, malgré une seconde dénonciation après la guerre, il gardera toujours une place centrale dans le cœur des soviétiques, tentant de conserver son rang dans un régime qui le nourrit et le tense. Le petit père des peuples meurt en 1953. Le temps pour lui de faire entrer son pays dans la guerre froide. Après les bombes lancées contre le Japon par les États-Unis, la course à l'armement atomique est lancée. Elle va provoquer de nouvelles catastrophes.